car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Et si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Or je le dis, aussi longtemps que l'héritier est tout petit, il ne diffère en rien d'un esclave, alors qu'il est le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des intendants jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, lorsque nous étions des tout petits, nous étions esclaves des éléments du monde. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son Fils, qui crie « Abba, Père ».
Le témoignage d'Anne Dauphine Julien se trouve sur Internet depuis un moment déjà, et un livre est sorti en 2011 qui raconte son récit. Mais tout commence sur une plage où cette mère réalise que son enfant hésite à un pas hésitant et un pied qui va vers l'extérieur. Cette petite Thaïs vient de fêter ses 2 ans et voici ce qu'il va se passer une fois qu'elle se rend chez un médecin et entend le diagnostic. Voilà la réaction de sa mère. À la fin de la visite, je rhabille ma princesse sur la table d'auscultation, dos au médecin, à Loïc et à la psychologue. Je suis entièrement tourné vers elle, seule, et je lui parle avec la spontanéité d'une mère qui souffre. Ma Thaïs, tu as entendu tout ce qu'a dit le docteur. Il nous a expliqué que tu ne pourrais plus marcher, plus parler, plus voir, plus bouger. C'est très triste, c'est vrai. Et nous avons beaucoup de chagrin. Mais ma chérie, ça ne nous empêchera jamais de t'aimer et de tout faire pour que tu aies une vie heureuse. Je te le promets, mon bébé, tu vas avoir une belle vie. Pas une vie comme les autres, petite fille, ou comme Gaspard, mais une vie dont tu pourras être fière et où tu ne manqueras jamais d'amour, le nôtre et celui de tant d'autres. Cette petite fille a une maladie, en tant qu'elle a une maladie génétique orpheline, on lui annonce que quelques mois à vivre, et voilà la promesse que lui fait sa mère. Touchant, n'est-ce pas, quand on, moi-même en le relisant. Mais cette promesse et l'amour témoigné de ses parents vont effectivement sécuriser cette petite fille pour toute la vie qu'elle aura, même si elle est courte, à travers tout ce qu'elle va passer et petit à petit l'épreuve de perdre tous ses sens. Et elle va vivre presque 4 ans en tout. Dans notre texte, il est question de la promesse de l'amour de Dieu qui est présenté comme un père. À quoi est-ce que cet amour peut ressembler? Et jusqu'à quel point est-ce que cette promesse d'amour de la part de Dieu peut sécuriser notre présent et notre avenir? On est dans notre série, on reprend notre série dans Galates après avoir fait une interruption pendant l'été. Et les croyants auxquels l'apôtre Paul s'adresse en Galatie sont majoritairement d'origine païenne, non juive. Et pour se savoir justifiés devant Dieu, en paix avec Dieu, ils sont tentés par l'idée qu'il leur faut en quelque sorte sécuriser leur position devant Dieu par l'obéissance à la loi de Moïse. Devenir un peu plus juif en quelque sorte. Se rapprocher de la lignée d'Abraham. Mais dans ce chapitre 3, l'apôtre Paul a été ferme. Ce n'est pas de cette façon qu'on devient descendant d'Abraham. Il commence par montrer qu'Abraham, lui-même d'origine païenne, a été déclaré juste, non pas parce qu'il a obéi à la loi de Moïse, elle est venue des siècles plus tard. Non, c'est par la foi dans les promesses de Dieu qu'il a été justifié. Et quant à devenir les descendants d'Abraham, c'est en étant unis à Jésus-Christ. C'est lui le véritable descendant d'Abraham et c'est par la foi en lui qu'on devient à notre tour descendant d'Abraham. qu'on goûte à une vraie relation avec Dieu. On va se poser deux questions sur la base de ce texte. Qu'est-ce que ça change d'être enfant de Dieu? Et comment décrire le changement? On pourrait résumer ce passage de la façon suivante, si vous voulez bien. En Jésus-Christ, nous sommes devenus enfants de Dieu. Nous sommes passés de la condition d'esclave à celle d'un enfant de Dieu, avec la sécurité et l'héritage que cela implique. On démarre avec qu'est-ce que ça change d'être enfant de Dieu. Au verset 26, et vous pouvez suivre dans les Bibles ou suivre à l'écran, « Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. » Remarquez que ma question parle d'enfant de Dieu, mais l'apôtre Paul, lui, dans son texte, il a écrit « fils de Dieu ». Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Alors c'est vrai que je vais continuer à utiliser « enfant de Dieu » quelquefois dans le commentaire de ce texte, parce qu'il me semble que c'est à propos pour décrire la position des croyants. Mais l'apôtre Paul a bel et bien écrit « fils de Dieu ». Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Est-ce que c'est du machisme? En fait, il veut se focaliser sur les hommes et utiliser des images qui ne concernent que les hommes. Ce n'est pas ça. On voit par exemple dans sa lettre aux Éphésiens qu'il va prendre, pour décrire l'Église, l'image d'une épouse, d'une femme, pour que les croyants s'identifient homme et femme à cette épouse par rapport à Christ. Alors pourquoi fils? Eh bien, tout simplement parce qu'à l'époque, c'était les fils qui étaient héritiers dans une famille. Les femmes, dans la plupart des sociétés antiques, n'étaient pas héritières. Et donc ce qu'il veut dire, c'est que tous, hommes ou femmes, sont dans la position de fils héritier. C'est un privilège accordé à tous. Et de la même façon qu'il dit aux Éphésiens que tous, hommes et femmes, sont dans la position d'une épouse qui peut expérimenter l'amour sacrificiel d'un mari. Car vous êtes tous, par la foi, fils de Dieu en Jésus-Christ. Et dès le départ, dans ces quelques mots, l'apôtre Paul affirme que la sécurité, le privilège d'être fils est lié à notre union à Jésus. Et nous sommes unis à Jésus, comment? Par la foi. Autrement dit, le privilège, la sécurité d'être enfant de Dieu, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. C'est par une promesse. Comme cette mère à sa fille, une promesse qu'il va falloir croire et expérimenter d'une certaine façon. Qu'est-ce que ça change d'être enfant de Dieu? On va relever trois affirmations dans cette première partie, au verset 27 déjà. En effet, vous tous qui avez reçu le baptême du Christ, vous avez revêtu le Christ. Ça, c'est la première expression qu'on va commenter. Vous avez revêtu le Christ. Pourquoi est-ce qu'il introduit cette image d'être revêtu de Christ comme d'un vêtement par le baptême? Alors déjà, on a eu un baptême ce matin avec la petite Fiti, à 11 ans, qui a demandé à se faire baptiser. Magnifique témoignage. Dimanche prochain, c'est Guillaume Gombert, qui va se faire baptiser dans une église au sud de la France pour que ses parents et ses amis puissent assister au baptême. Le baptême traduit bien cette union à Jésus, cette association à Jésus. Le fait d'être immergé dans l'eau rappelle, et d'en ressortir, rappelle ce lien avec la mort et la résurrection de Jésus. Et le baptême dit bien ce nouveau départ que le nouveau croyant, choisit de vivre avec Dieu et marcher avec lui. Mais l'apôtre Paul poursuit avec l'image d'un vêtement, comme si on était revêtu du Christ. Où est la force de l'image? Mais on peut dire déjà qu'un vêtement, c'est souvent l'occasion d'identifier quelqu'un. On identifie les gens souvent par leurs vêtements. Parfois, les vêtements témoignent de l'origine d'une personne. Pensez aux touristes qui sont à Paris. Et si vous êtes touriste ce soir, malheureusement, vous savez qu'on vous observe. Parfois, on regarde par les habits d'où pourraient venir les personnes. Parfois, les vêtements témoignent de notre condition sociale. Parfois, les vêtements témoignent aussi des modèles que nous avons, des groupes auxquels nous voulons appartenir. Mais dire ici que nous sommes revêtus de Christ, c'est dire pour les croyants que c'est avant tout par lui qu'on est identifié, au-delà de toutes les autres classifications. Nous sommes identifiés à Jésus, recouverts par lui. C'est lui qui fait notre identité. Et comme un vêtement qu'on va emmener partout où on va, C'est lui qui est partout présent avec nous, où que nous allions. Imaginez une soirée élégante. Peut-être vous avez le souvenir d'une soirée élégante où vous êtes rendu et vous avez le sentiment, et peut-être pas que le sentiment, c'est la réalité. Toutes les personnes qui sont là à cette soirée, c'est peut-être un mariage ou autre, sont d'une classe sociale plus élevée que la vôtre. Alors vous engagez la conversation avec quelques personnes et assez rapidement, vous avez l'impression que les personnes vous évaluent. Elles vous évaluent sur la base de votre habillement, elles vous évaluent sur la base de votre manière de parler, elles vous évaluent sur la base des sujets de conversation, de vos expériences, de vos études, de votre travail. Et au bout d'un moment, vous voyez que ces personnes, en fait, veulent couper court à la conversation parce qu'elles estiment que vous ne méritez pas qu'on passe plus de temps avec vous. Les croyants ici doivent savoir qu'ils sont couverts de Christ. Toutes les classifications qui font de nous quelqu'un d'inférieur n'ont rien à voir avec un vêtement qui nous donne de la dignité, celui qui consiste à être couvert de Christ, recouvert par lui, avec toute la dignité que ça représente. Pas de meilleur vêtement. Avec ce vêtement-là, on peut affronter le regard méprisant ou condescendant de l'une ou l'autre personne. Qu'est-ce que ça change d'être enfant de Dieu ? Vous avez revêtu le Christ. Et le deuxième élément se trouve au verset 28. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre, et il n'y a plus ni homme ni femme, car vous tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Vous êtes un en Jésus-Christ. Ici, l'apôtre Paul mentionne certaines barrières à l'époque, mais qu'on pourrait être retrouvé aujourd'hui. Juif et grec, une barrière culturelle. Mais dans l'Église, quelqu'un qui devient croyant n'a pas à se joindre à une autre culture, la culture d'un autre, pour être accepté. Esclave et homme libre, une barrière sociale. Mais un chrétien, quelle que soit sa condition, doit être respecté, honoré, qu'il soit de condition humble ou de condition élevée. Homme et femme, barrière de genre. Mais les femmes et les hommes sont égaux devant Dieu. Les blagues machistes, par exemple, regardent condescendants, n'ont pas leur place dans l'Église. Mais est-ce que ça signifie, peut-être plus que cela, que toutes les différences sont enlevées ? Est-ce que ça signifie que toutes les différences sont annulées ? Ailleurs, dans ses lettres, on voit que l'apôtre Paul peut s'adresser à différentes personnes. Il peut s'adresser dans sa lettre aux Romains, par exemple, aux Grecs et aux Juifs, aux Juifs ou non-Juifs, aux maîtres et aux esclaves, aux hommes et aux femmes, dans d'autres lettres. Et pour nous, aujourd'hui, à la fin de cette rencontre, quand on va discuter avec l'un ou l'autre, est-ce qu'il faudrait refuser de mentionner tout arrière-plan culturel, comme s'il ne faut pas en parler ? Il y a une certaine richesse à évoquer nos différences dans le partage. Pareil avec les différences sociales, est-ce qu'il n'y a pas des exemples à voir, comme quand Jésus parle d'une veuve qui a donné plus que tous les autres ? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à retirer de nos conditions sociales différentes ? Ou même différence de genre ? Ce n'est pas comme si l'idéal était androgyne, ni homme ni femme, ou peut-être les deux à la fois, comme s'il fallait enlever toute distinction. Être un en Christ, ça ne signifie pas enlever, se débarrasser de toute différence, mais c'est se débarrasser de tout esprit de supériorité. Et pour prendre un exemple de conversation, tout à l'heure, en prenant un verre, peut-être à la collation, si on devait à un moment donné être en train de discuter avec quelqu'un et avoir cet esprit condescendant pour l'une ou l'autre raison, alors on devrait le réaliser. Ça ne colle pas du tout avec ce que Dieu a fait de nous si nous sommes croyants. Et on devrait s'en repentir. À la fin d'une journée, c'est une bonne question à se poser. Est-ce que dans ma journée, j'ai eu ce regard condescendant vis-à-vis de l'un ou l'autre de mes frères ou sœurs ? Il y a des différences de parcours, différences de personnes, de personnalités, des personnes plus ou moins intelligentes, plus ou moins compétentes, des dons différents. Mais un esprit de supériorité n'a tout simplement pas sa place dans la famille de Dieu. Vous êtes un en Jésus-Christ. Troisième élément de réponse, verset 29. Si vous appartenez au Christ, alors vous êtes la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. vous êtes la descendance d'Abraham. Je mentionnais la sécurité que Thaïs pouvait expérimenter dans sa famille, mais malheureusement, il y a des situations familiales où c'est l'inverse qui a été vécu. La tragédie d'un enfant qui n'a pas été aimé. Je me souviens avoir lu dans mes études pour devenir instituteur un livre qui s'intitule « L'enfant dans le placard » d'Ottilie Bailly. Basé sur des faits réels, c'est l'histoire d'un petit garçon qui est nommé Jean dans le récit. Il a 5 ans et son père est parti. Et un autre homme est rentré dans la vie de sa mère. Cet homme ne supporte pas Jean et à la moindre erreur, il le sanctionne sévèrement. Et un jour, Jean fait pipi au lit. Il est sanctionné par le fait d'être placé dans un placard sous l'escalier. Il pense qu'il va rester là quelques heures. Mais quelques heures viennent des jours. Quelques jours viennent des semaines. Et des semaines deviennent des mois. Il y a un autre enfant qui va naître dans la famille et cet enfant-là va être chéri, accueilli. À un moment donné, Jean va pouvoir sortir, mais le message a été communiqué, n'est-ce pas? C'est un enfant de seconde zone, un enfant qu'on cache, qui n'est pas digne. Dans ces églises de Galatie, les croyants sont tentés, alors qu'ils sont d'origine non-juive, de se dire qu'ils sont des croyants de seconde zone. Mais ce n'est pas vrai. Vous êtes la descendance d'Abraham. C'est la force de l'affirmation. Et ce soir, pour l'une ou l'autre raison, l'un d'entre nous pourrait penser à un tel ou à un tel et se dire que la position de cette personne-là est plus proche de Dieu, comme s'il y avait un privilège plus grand et qu'on se trouvait, vous trouviez dans la seconde zone. Mais ce n'est pas vrai. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes la descendance d'Abraham. Comment décrire le changement? C'est la deuxième question qu'on va se poser. Comment est-ce qu'on devient enfant de Dieu plus précisément? Comment décrire ce passage? Au verset 1 et 2, voici ce que je veux dire. Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Il est soumis à des tuteurs et à des administrateurs jusqu'au moment fixé par son père. Alors là, il nous faut rentrer dans une image que l'apôtre Paul choisit. Le fils d'un riche propriétaire au premier siècle, il possède ce propriétaire, imaginez, une maison spacieuse, propriété importante, des serviteurs, différentes sources de revenus. Et son fils va un jour hériter de tout cela, mais il n'a pas encore atteint le jour où il va hériter. Et c'est le choix du propriétaire de décider de cet âge, 14 ans, 20 ans, 25 ans. Jusqu'à ce moment-là, il va être sous la responsabilité d'un tuteur, qui souvent était en fait un esclave. Un esclave qui, dans ce rôle de tuteur, de précepteur, va l'enseigner et parfois le discipliner, parfois durement. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul peut dire que jusqu'à ce jour-là, où il héritera, il ne diffère en rien d'un esclave. Après être entré dans l'image, l'apôtre Paul l'applique à lui et à ses lecteurs. Verset 3, « Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. » Quelle est la force de ce qu'il dit ici? Quelle est la force? Il dit qu'au départ, un asservissement, un esclavage concerne tout le monde. Que l'on soit d'origine juive ou que l'on soit d'origine non-juive, tout le monde est concerné par un esclavage. Nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Vous savez, parfois on entend ici et là que cette image d'un Dieu qui est comme un père, cette image, c'est quelque chose qu'on s'est inventé si on est croyant, pour se rassurer, pour se faire du bien. Par exemple, un Luc Ferry qui l'écrit dans son livre « Apprendre à vivre », après avoir parlé de la vie éternelle, de la vie après la mort, il dit « Trop belle aussi !» Et tout aussi peu crédible, l'image d'un Dieu qui serait comme un père avec ses enfants. Est-ce que cette image de Dieu comme un père était là pour, a été inventée pour calmer nos angoisses, nous rassurer en quelque sorte? Si effectivement cette vérité nous rassure, et elle rassure, c'est vrai, il faut prendre l'ensemble de ce qui est dit ici. parce que l'un ne va pas sans l'autre. Si on décrit Dieu comme un père, il va falloir se décrire dans la peau d'un esclave. Juifs et non-juifs sont esclaves. Est-ce que ça nous arrange de croire ? Prenez deux personnes. Une personne, c'est quelqu'un de très religieux, quelqu'un qui a beaucoup de principes, qu'il met beaucoup d'intention à s'habiller d'une certaine façon, à ne pas manger ceci, à ne pas manger cela. Il a toutes sortes de principes éthiques. Et il estime qu'en mettant en pratique tous ces principes, il va être en quelque sorte accepté par Dieu, sécuriser sa position devant Dieu. Pensez à une autre personne qui, elle, ne croit pas en Dieu. Elle, tout ce qui l'anime, c'est son plaisir. Elle veut vivre pour son propre plaisir. Ses désirs, c'est ce qui va lui permettre de prendre des décisions. Dans la peau de ces deux personnes, est-ce que ça les arrange, l'une et l'autre, de croire qu'elles sont esclaves ? D'accepter l'une et l'autre qu'elles sont esclaves ? En réalité, ce n'est pas du tout naturel. Et pour dans la peau d'un pasteur, je sais que ce n'est pas du tout naturel de se reconnaître comme esclave, que ce soit moi ou que ce soit les personnes qui s'intéressent à la Bible. C'est très difficile de se reconnaître dans la peau d'un esclave. Et pas simplement un esclavage dont on est victime, un esclavage dont on est responsable et qui représente une offense à Dieu. Pourquoi ? Parce qu'on s'est fait un autre Dieu. Un Dieu à notre image, que ce soit le plaisir, que ce soit un Dieu que l'on va servir pour qu'il nous donne ce qu'on veut. Écoutez ce témoignage de l'un d'entre nous ici qui dit cette difficulté. Je n'étais pas myope spirituellement, j'étais aveugle. Dieu n'a donc pas pu m'opérer, il a changé mes yeux. Je me suis aperçu que j'avais eu faux sur toute la ligne. C'est pas facile à reconnaître, se repentir, capituler coûte beaucoup aux orgueilleux que nous sommes. C'est pas facile à voir, c'est pas facile à reconnaître. Et ça ne nous arrange pas de reconnaître qu'on est esclave. Mais une fois qu'on réalise cela, comment est-ce qu'on va savoir qu'on peut être enfant de Dieu ? Comment est-ce qu'on le devient ? Au verset 4, c'est là le changement. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption filiale. Une phrase assez chargée, mais on va juste se focaliser sur une partie. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme et sous la loi. Trois facettes qui incarnent, de celui qui incarne la solution. Il est le Fils de Dieu préexistant. Il est en même temps celui qui va s'incarner, né d'une femme. Il va se soumettre à la loi et lui obéir. Vous savez de qui on parle ? On parle bel et bien de Jésus. Et le théologien anglais John Stott met en évidence l'importance de ces trois facettes. S'il n'avait pas été un homme, il n'aurait pas pu racheter des hommes. S'il n'avait pas été juste, il n'aurait pas pu racheter des hommes injustes. Et s'il n'avait pas été le Fils de Dieu, il n'aurait pas pu racheter des hommes pour Dieu, ni en faire des fils de Dieu. L'apôtre Paul ici multiplie les métaphores, deux en particulier, pour dire ce que Jésus a opéré. Métaphore d'une rédemption et d'une adoption. Pour comprendre la rédemption, il faut aller sur un marché au 1er siècle, voir des esclaves qui sont vendus. Pour comprendre l'adoption, il faut se rendre dans un domaine d'un riche propriétaire qui va peut-être à un moment donné adopter un esclave pour en faire un héritier. Au marché, on trouve des personnes qui sont esclaves et qui sont rachetées pour expérimenter une liberté nouvelle ou alors un autre esclavage. Mais Jésus est vu, comme et il le décrit lui-même, comme celui qui vient donner sa vie en rançon. Il se le donne en échange de notre libération. Et il permet plus que cela encore l'adoption. Il nous donne son statut de fils par rapport au Père, avec toute la sécurité que ça représente. Et pour ceux d'entre nous ce soir qui n'ont pas expérimenté cette adoption, c'est bien par la foi en Jésus et dans ce qu'il a fait, et on va y penser tout à l'heure avec le repas du Seigneur. Ça engage notre intellect de penser à la rédemption, à l'adoption. Il est question de quelque chose qui s'est passé dans l'histoire lorsque les temps furent venus. C'est rationnel, c'est expérimenté, enfin, vécu à l'extérieur de nous, objectif. Mais l'apôtre Paul veut aller plus loin pour décrire quelque chose qui est plutôt de l'ordre de l'expérience et du subjectif au verset 6. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans notre cœur l'esprit de son fils qui crie « Abba, Père ». Jusqu'ici, l'apôtre Paul, il écrit en grec. Et là, tout à coup, « Abba », c'est de l'araméen. Qu'est-ce qui se passe ? Lapsus, où il est parti dans une autre langue. Mais il choisit bien ses mots. « Abba », c'était la manière dont Jésus s'adressait à son Père, n'est-ce pas ? C'est ce qui a frappé tout le monde, ce qui frappait les disciples. « Cher Père ». Et le fait de pouvoir s'adresser à Dieu de cette façon-là, comme Jésus, par Jésus, ça dit l'expérience que les croyants peuvent avoir dans la prière. Crier « Abba Père » dans un moment de honte, dans un moment de repentance, dans un moment de détresse, dans un moment d'épreuve, de crier « Abba Père », un même privilège. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier du fait de Dieu. La promesse de la mère de Thaïs, qu'on a lue tout à l'heure, elle est magnifique. Je ne sais pas si vous pensez pareil. J'aimerais pouvoir dire et surtout vivre une telle promesse vis-à-vis de mes filles. Leur dire que je vais les aimer, qu'elles auront une belle vie. Et pourtant, la promesse que Dieu nous fait est encore plus belle et plus profonde. D'une part, parce qu'il nous a aimés alors qu'on n'était même pas ses enfants et il nous a rapprochés. D'autre part, parce que ce n'est pas le temps d'une vie, c'est au-delà de la mort qu'il garantit cette promesse. Et quand il la garantit, on parle ici du Dieu qui est à l'origine de l'existence et qui est son aboutissement, il est à même de tenir sa promesse, quoi qu'il arrive. La petite Fiti, ce matin, a cité un verset en parlant de la sécurité qu'elle peut vivre. Elle a 11 ans, elle a toute une vie devant elle, et quelqu'un pourrait lui dire, mais comment peux-tu dire ces choses-là? Comment peux-tu affirmer que tu vas suivre Jésus toute ta vie si elle ne s'appuyait pas sur une promesse que Dieu lui a faite? Je lis certaines paroles d'où elle a tiré sa citation en Romains 8, versets 35 à 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Serait-ce la détresse, l'angoisse, la faim, la persécution, le dénuement, le danger ou l'épée? De fait, il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort à longueur de journée, qu'on nous considère comme des brebis destinées à la boucherie. Au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. En effet, j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.